Bien, je vous remercie. Je voudrais tout d'abord remercier les orateurs qui viennent de s'exprimer pour leur parole de bienvenue et dire que, une fois encore, un séminaire sur la Convention européenne des droits de l'homme est rendu possible par la coopération que le Conseil de l'Europe a instaurée avec le ministère de la Justice de la République tchèque, et en particulier avec Madame Vurstova, qui est désormais notre interlocutrice habituelle et qui, avec le dynamisme que nous lui connaissons, fait en sorte que chaque année, un séminaire sur la Convention européenne des droits de l'homme soit organisé à Prague. Mais, comme cela a été très justement souligné, c'est la première fois que les procureurs sont associés à ce séminaire et le Conseil de l'Europe y attache une grande importance compte tenu du rôle des procureurs dans le cadre des procédures judiciaires. Alors, on m'a demandé de rappeler un peu quelles étaient les activités du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme et en particulier dans le cadre de la coopération internationale. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler un peu dans quel contexte cette coopération s'effectue. Et tout d'abord, ce qu'est le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est une organisation internationale qui est née après-guerre et qui a été, pendant de très nombreuses années, une organisation réservée aux seuls États d'Europe occidentale. À partir de 1990, la situation a considérablement changé, puisque les anciens États du bloc communiste ont progressivement fait leur entrée au Conseil de l'Europe. La Tchécoslovaquie, ce qui était alors la Tchécoslovaquie, a été un des premiers États à adhérer à cette organisation. Aujourd'hui, la plupart des États de l'ancien bloc communiste font partie du Conseil de l'Europe, qui en quelques années est passé d'une vingtaine de membres à 36 aujourd'hui. Le Conseil de l'Europe, en effet, a accueilli au mois de juillet l'Albanie et la Moldova. Et dans quelques semaines, vraisemblablement, l'Ukraine et l'ex-république yougoslave de Macédoine vont entrer au Conseil de l'Europe. Parmi les pays, je dirais, c'est peut-être un peu plus rapide maintenant de le voir dans ce sens, qui ne font pas partie du Conseil de l'Europe, mais qui sont candidats à l'adhésion, on peut citer la Russie, qui devait entrer au Conseil et dont l'entrée a été retardée en raison des événements de Tchétchénie, la Bélarusse, la Croatie. Et parmi ceux qui ont fait une demande d'adhésion, il y a notamment la Bosnie-Herzégovine qui vient de déposer une demande d'adhésion. Il y a donc maintenant une organisation internationale en Europe qui regroupe l'Europe depuis le Royaume-Uni à l'ouest jusqu'à des pays extrêmement lointains vers l'est, jusqu'à la Scandinavie ou à la Turquie au sud ou la Grèce. Alors, quelles sont les conditions pour faire partie du Conseil de l'Europe? Je dirais qu'elles sont, pour classifier, au nombre de trois. Tout d'abord, pour entrer au Conseil de l'Europe, il faut être une démocratie pluraliste. Et pendant longtemps, le Conseil de l'Europe a été considéré en quelque sorte comme un club des démocraties. Une démocratie pluraliste, cela signifie des élections libres, des parlements également libres, des élections à intervalles réguliers, des partis politiques libres, une liberté de la presse. La deuxième série de conditions à remplir, c'est une bonne administration de la justice. Et là, en tant que procureur, vous êtes évidemment concerné au premier chef. Une bonne administration de la justice, cela signifie des juges indépendants, des tribunaux indépendants et impartiaux, c'est-à-dire des notions que l'on retrouve dans la Convention européenne des droits de l'homme, des juges qui disposent d'un certain nombre de garanties, comme par exemple l'inamovibilité, c'est-à-dire l'impossibilité de les déplacer sans leur consentement. Voilà la deuxième série de conditions. La troisième série de conditions, c'est l'adhésion à un instrument international qui, comme cela a été dit plus tôt, est un des instruments fondamentaux du Conseil de l'Europe, en quelque sorte sa grande charte, la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, pendant très longtemps, il n'était pas nécessaire d'adhérer complètement à cet instrument pour faire partie du Conseil de l'Europe. On cite souvent l'exemple de la France qui, après avoir signé la Convention européenne des droits de l'homme en 1950, ne l'a ratifiée qu'en 1974 et n'a accepté ce que l'on appelle le droit de recours individuel, qui vous sera présenté tout à l'heure par Ronny Abraham, qu'en 1981. En d'autres termes, avant que la France ne soit, si je puis dire, membre à part entière du mécanisme de la Convention européenne des droits de l'homme, il aura fallu attendre une trentaine d'années. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Car lorsqu'un nouveau pays adhère au Conseil de l'Europe, comme cela va être le cas pour l'Ukraine, vraisemblablement dans un mois, on lui impose l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, donc la signature de ce texte, ainsi que la signature de ses protocoles, car le texte de base, le texte initial, a été agrémenté d'un certain nombre de protocoles qui le complètent, et on exige également que la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme intervienne dans un délai plus raisonnable que celui qui avait été accordé aux anciens États. Il ne serait pas envisageable aujourd'hui qu'un État ne ratifie la Convention que 30 ans après la signature de l'instrument. L'Assemblée parlementaire demande aux nouveaux États de ratifier dans un délai de 1 an. Alors ce délai est plus ou moins respecté. Pour vous donner un exemple, l'Estonie qui a signé la Convention européenne des droits de l'homme en 1993 va ratifier la Convention vraisemblablement au mois de novembre prochain. Il y a donc eu un délai de 2 ans entre la signature et la ratification. Alors, ce délai de 2 ans, il est mis à profit par les États pour mettre leur législation en conformité avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais j'y reviendrai dans un instant. Alors, quels sont les organes du Conseil de l'Europe? Il y a tout d'abord un organe consultatif qui est l'Assemblée parlementaire. Et cette Assemblée parlementaire est composée de représentants des parlements des différents États membres. Il ne faut donc pas confondre cet organe consultatif avec le Parlement européen, qui est directement élu au suffrage universel. L'Assemblée parlementaire comporte des représentants de nos différents parlements qui, évidemment, changent avec les majorités parlementaires des différents États. Lorsqu'il y a une élection dans un État, que le Parlement voit sa composition modifiée, la délégation parlementaire change. Le deuxième organe, qui est en quelque sorte l'organe le plus important du Conseil de l'Europe, est le comité des ministres. C'est l'organe de décision. Et le comité des ministres du Conseil de l'Europe est en réalité le comité des ministres des Affaires étrangères. Ces ministres des Affaires étrangères ne sont évidemment pas présents en permanence à Strasbourg, mais ils y ont des ambassadeurs que l'on appelle les représentants permanents. Et l'actuel représentant permanent de la République tchèque est un juriste que vous connaissez certainement de réputation, M. Malinowski, qui était professeur à la faculté de droit de Brno et qui est maintenant le représentant permanent de la République tchèque au Conseil de l'Europe. C'est au sein du comité des ministres que se prennent les décisions importantes après avis de l'Assemblée parlementaire. Toutes les procédures d'adhésion des nouveaux États font l'objet d'examens de la part de l'Assemblée parlementaire, d'invitations à adhérer à l'organisation et de décisions par le comité des ministres. C'est à ce stade de la procédure que nous nous trouvons pour l'Ukraine et la République, l'ex-République yougoslave de Macédoine, puisque l'Assemblée parlementaire a invité ces États à adhérer à l'organisation. Ils vont donc faire une demande auprès du comité des ministres. Enfin, le Conseil de l'Europe a à sa tête un secrétaire général qui est actuellement M. Daniel Tarchis, un Suédois, et la tradition veut que le secrétaire général n'effectue qu'un seul mandat. C'est ce qui, pour l'instant, s'est toujours produit. Alors, les activités du Conseil de l'Europe sont évidemment très liées à celles de la juridiction, du mécanisme de la Convention européenne des droits de l'homme, mais je n'en parle pas puisque ce mécanisme va être très longuement présenté par Ronny Abraham. Mais il y a au sein du Conseil de l'Europe une direction qui est la direction des droits de l'homme que je représente aujourd'hui. La direction des droits de l'homme a pour rôle de développer la protection des droits de l'homme, et c'est au sein de la direction des droits de l'homme que sont élaborés, dans le cadre de comités intergouvernementaux qui rassemblent des experts de tous les États membres, que sont élaborés donc les nouveaux protocoles à la Convention européenne des droits de l'homme. Ces nouveaux protocoles sont parfois des protocoles de procédure, comme le protocole numéro 11 qui sera présenté ici, et ce sont parfois des protocoles qui touchent au fond, qui touchent à la substance et qui confèrent de nouveaux droits aux individus. Mais une des activités du Conseil de l'Europe depuis quelques années vous concerne au premier chef, puisque il s'agit des activités de coopération avec les pays d'Europe centrale et orientale. Ces activités, elles sont regroupées dans le cadre de ce qu'on appelle le programme Demosthène, le programme Demosthène bis. Alors, Demosthène, c'est tout simplement un programme de coopération et d'assistance aux nouveaux États membres du Conseil de l'Europe, en Europe centrale et orientale. Et Demosthène bis, lui, est réservé aux États qui ne sont pas membres, mais qui sont candidats à l'adhésion. Il n'est pas impossible qu'au cours des prochains mois, le programme Demosthène bis soit étendu à l'Arménie, à la Géorgie, à l'Ouzbékistan et au Tadjikistan. Donc, vous voyez que le programme Demosthène bis va très loin. Alors, cette coopération avec les pays d'Europe centrale, sous quelle forme intervient-elle ? Sous la forme d'abord de séminaires, comme celui que nous organisons aujourd'hui, de séminaires d'information pour faire découvrir la Convention européenne des droits de l'homme, sous la forme de visites d'études. La Direction des droits de l'homme organise un certain nombre de visites d'études à Strasbourg, essentiellement pour des juges, des procureurs d'Europe centrale et orientale, et cette année, avec le ministère de la Justice de la République tchèque, nous avons organisé et nous organisons au cours des prochaines semaines un certain nombre de visites d'études de façon à ce que les juges, les procureurs puissent venir assister à des audiences de la Cour européenne des droits de l'homme et voir comment le mécanisme fonctionne en pratique. Et évidemment, ces visites d'études ne peuvent être réservées qu'à ceux qui comprennent soit le français, soit l'anglais, puisque actuellement, le Conseil de l'Europe travaille exclusivement dans ces deux langues, et donc les audiences ont lieu en français ou en anglais et sont traduites dans l'autre langue. Donc des visites d'études, et nous essayons d'en organiser à Strasbourg, mais aussi dans certains anciens États membres, pour familiariser les juges et les procureurs avec l'application de la Convention européenne des droits de l'homme dans les différents États membres. À titre d'exemple, puisque c'est une activité que j'organise en ce moment, deux juges tchèques vont le mois prochain effectuer une visite au tribunal de Nancy, en France, pour voir le fonctionnement de ce tribunal. Donc ces échanges sont pris en charge par le Conseil de l'Europe et en particulier par la Direction des droits de l'homme. Depuis à peu près deux ans, un an et demi à peu près, la Direction des droits de l'homme s'est également engagée dans une autre activité, qui est la mise en conformité, l'aide à la mise en conformité des législations des nouveaux États membres avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, pour un certain nombre de pays, il y avait un tel décalage, un tel fossé entre le système existant et les exigences de la Convention, qu'il a fallu les aider pour adapter leur structure et leur système aux exigences de Strasbourg. C'est dans ce contexte que ce qu'on appelle les exercices de compatibilité ont été lancés. Pour l'instant, plusieurs États ont été touchés par cette activité, l'Estonie et la Lituanie en particulier. Et actuellement, plusieurs exercices de cette nature sont en cours pour l'Ukraine, pour la Moldova, pour l'Albanie, pour la Lettonie, et d'autres vont commencer, notamment pour la Russie. C'est un exercice qui dure relativement longtemps, au moins une année, et que le Conseil de l'Europe prend en charge avec le soutien financier de l'Union européenne. Cette activité est également mise en œuvre par la Direction des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Voilà donc en quelques mots les activités de notre direction. Bien entendu, nous pourrons en discuter plus en détail. Et concernant l'adhésion des nouveaux États, vous aurez peut-être des questions à poser par la suite, au moment de la pause. Mais je vais maintenant laisser la parole à Ronny Abraham pour vous présenter le mécanisme de la Convention tel qu'il existe. Puisque dans l'après-midi et demain matin, nous parlerons des droits garantis, mais il est indispensable, dans la mesure où c'est votre premier contact officiel avec le mécanisme de Strasbourg, que vous sachiez comment fonctionne ce mécanisme, ce qui concerne déjà la République tchèque, puisque un certain nombre d'affaires ont déjà été introduites à Strasbourg. Donc nous ne sommes plus dans la prospective, comme c'était le cas il y a quelques années, mais maintenant, la République tchèque est de plein pied dans le système. Donc lorsqu'il y a des affaires introduites contre la République tchèque à Strasbourg, il est peut-être important que vous sachiez comment, à Strasbourg, ces affaires vont être traitées. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Merci beaucoup. Je vais donc m'efforcer de vous présenter, en tout cas dans les grandes lignes, l'organisation et le fonctionnement du système juridictionnel de contrôle, du mécanisme de contrôle institué par la Convention européenne des droits de l'homme. Mécanisme qui a pour objet de veiller au respect par les États parties de leurs obligations résultant de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un mécanisme juridictionnel, au moins partiellement, puisqu'il fait intervenir des juridictions, la Commission et surtout la Cour européenne des droits de l'homme. Et d'autre part, il a pour première caractéristique d'être un mécanisme aux individus, puisque ces organes internationaux de contrôle peuvent être saisis par des particuliers, par des personnes privées, de requêtes dirigées contre les États. Et cette situation est quasiment sans équivalent dans l'ordre international, la situation dans laquelle des individus peuvent mettre en cause la responsabilité d'États devant des juridictions internationales ayant un pouvoir de décision obligatoire. Je dois préciser immédiatement, comme Patrick Titien vous l'a déjà indiqué il y a un instant, que ce que je vais vous décrire à présent, c'est le système de contrôle tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas celui qui fonctionnera dans quelques années, car, comme vous le savez peut-être, une réforme est actuellement en cours. Un protocole modificatif de la Convention a été élaboré, le protocole numéro 11, dont l'objet est de modifier l'organisation et le fonctionnement du système de contrôle. Mais à l'heure qu'il est, ce protocole n'est pas encore entré en vigueur. Il n'est donc pas encore applicable et c'est encore le système initial qui s'applique. C'est donc ce système-là que je vais vous présenter maintenant et tout à l'heure, en début d'après-midi, je crois, je vous présenterai les grandes lignes du protocole numéro 11 qui préfigure donc le système futur. En ce qui concerne le mécanisme actuel, je crois qu'on peut dire qu'il a trois grands traits caractéristiques. Il est facultatif, il est subsidiaire et il est complexe. Voilà ces trois grandes caractéristiques si on voulait résumer les choses très grossièrement. D'abord, c'est un mécanisme facultatif. Je veux dire par là que n'y sont soumis que les États qui l'ont accepté. Plus précisément, il faut distinguer entre ce qu'on appelle les requêtes étatiques et les requêtes individuelles. C'est-à-dire les requêtes qui émanent d'un État et celles qui émanent d'une personne privée. Lorsqu'un État ratifie la Convention européenne des droits de l'homme, il se trouve de ce seul fait, soumis à l'éventualité d'être mis en cause devant les organes européens par un autre État parti. Tout État parti à la Convention peut mettre en cause la responsabilité d'un autre État pour violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il n'y a pas besoin pour cela d'une procédure spéciale d'acceptation. En revanche, la possibilité pour des individus d'attaquer un État parti à la Convention devant les organes européens, cette possibilité est subordonnée à une déclaration spéciale d'acceptation par l'État considéré. Il faut que l'État ait déclaré à l'avance accepter de se soumettre aux requêtes individuelles pour l'avenir. Cette déclaration spéciale est prévue à l'article 25 de la Convention et elle est facultative pour les États. Ce qui veut dire qu'un État peut ratifier la Convention, devenir partie, sans pour autant être soumis au recours des individus devant les organes de Strasbourg. Ça a été le cas de la France, comme Patrick Titien l'a rappelé il y a un instant, qui est devenue partie à la Convention en 1974 et qui a reconnu le droit de recours individuel en 1981. Cela dit, c'est une situation qui est aujourd'hui très théorique, car à l'heure actuelle, tous les États partis à la Convention reconnaissent le droit de recours individuel qui est considéré actuellement comme un accessoire pratiquement indissociable de la Convention elle-même, un élément essentiel de la Convention. Et notamment, tous les États qui ont ratifié ces dernières années la Convention ont simultanément fait la déclaration d'acceptation du recours individuel. Mais en théorie, il subsiste le caractère facultatif de cette acceptation. La déclaration d'acceptation du recours individuel peut être faite sans limite de temps pour l'avenir, ou bien beaucoup d'États ont fait cette déclaration pour une certaine période de temps, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et au terme de cette période, cette déclaration est susceptible de renouvellement pour une nouvelle période de temps. Donc le système de contrôle est un système facultatif, en tout cas en théorie, même si en pratique aujourd'hui, tous les États sont soumis au contrôle européen, y compris par les requêtes individuelles. Deuxièmement, deuxième grand trait caractéristique, c'est un mécanisme qui se veut subsidiaire. Cela signifie que c'est d'abord aux juridictions nationales qu'il appartient de veiller au respect des droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention. La juridiction européenne ne doit intervenir que subsidiairement, c'est-à-dire faute pour les juridictions internes d'avoir protéger les droits en cause ou d'avoir en tout cas donné satisfaction à une requête. C'est une caractéristique importante du système. Elle fait peser une responsabilité particulière sur les juges nationaux qui ne doivent pas s'en remettre aux juges européens pour la protection des droits fondamentaux, qui doivent jouer le premier rôle, le premier, en tout cas chronologiquement, dans la protection des droits fondamentaux. Et ce n'est pas simplement la philosophie du système qui veut cela. Cela renvoie à une règle de procédure sur laquelle je reviendrai dans quelques instants, qui est la règle de l'épuisement des voies de recours internes. Un particulier ne peut saisir les organes de Strasbourg, il n'est recevable à le faire que s'il a d'abord utilisé toutes les voies de droit que lui offre la législation nationale devant les juridictions nationales. Enfin, troisième caractéristique, c'est un système complexe. C'est un système complexe puisqu'il fait intervenir non pas un, mais trois organes, dont les relations appellent évidemment quelques développements dans lesquels j'entrerai dans un instant. Mais immédiatement, quels sont les trois organes qui sont à Strasbourg chargés de concourir à la protection des droits fondamentaux et de veiller au respect de la Convention? La Commission européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, dont Patrick Titien a déjà, qu'il a déjà évoqué il y a un instant. La Commission européenne des droits de l'homme est l'organe qui examine les requêtes en premier lieu. C'est celle qui reçoit les recours. Elle est composée de juristes indépendants, un par État partie à la Convention. Il y a autant de membres de cette commission qu'il y a d'États partis. Et ces membres sont désignés par les différents gouvernements sur proposition de l'Assemblée consultative. Ils sont nommés pour un mandat de 6 ans, renouvelable, et naturellement, dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont totalement indépendants des gouvernements. Ils n'ont pas de compte à rendre à l'État dont ils sont ressortissants, et ils prennent position dans les différentes affaires à titre strictement personnel et en toute indépendance. Cette commission donc siège à Strasbourg, elle est assistée d'un secrétariat, et quant à son rôle exact dans la procédure, j'y reviendrai dans un instant. Mais disons, pour simplifier, enfin, pour donner tout de suite l'idée essentielle, elle est chargée de recevoir les requêtes, de procéder à un premier examen et de jouer un rôle de filtre, c'est-à-dire de ne laisser passer, pour la suite de la procédure, que les requêtes qui méritent un examen plus approfondi. La Cour européenne des droits de l'homme, le second organe, est un organe pleinement juridictionnel, composé d'autant de juges qu'il y a d'États membres du Conseil de l'Europe. Ces juges étant désignés par l'Assemblée consultative sur proposition des différents gouvernements. Chaque gouvernement propose 3 noms et l'Assemblée consultative élit le juge. Naturellement, comme les membres de la Commission, les juges de la Cour ont un statut de totale indépendance. Ils se prononcent à titre personnel et ils n'ont de compte à rendre à personne en ce qui concerne les positions qu'ils prennent et les avis qu'ils expriment dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour est assistée d'un greffe qui prépare son travail et qui l'aide dans son fonctionnement quotidien. Elle siège soit en formation plénière, soit en chambre, les chambres comportant à l'heure actuelle 9 juges chacune. Enfin, le troisième organe qui intervient dans la procédure, c'est le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Alors, cet organe est assez différent des deux précédents, car, à l'évidence, lui n'a pas une nature juridictionnelle, mais plutôt une nature politique, puisqu'il est composé des ministres des Affaires étrangères de l'ensemble des États membres du Conseil de l'Europe. Malgré sa nature politique ou politico-diplomatique, puisqu'en pratique siègent au comité non pas les ministres eux-mêmes, mais les ambassadeurs des différents États auprès du Conseil de l'Europe, ce qu'on appelle les délégués des ministres, les représentants permanents, malgré son caractère politico-diplomatique, c'est un organe qui joue un certain rôle dans l'examen des requêtes. Donc on peut dire à ce titre qu'il exerce une fonction quasi-juridictionnelle, C'est en tout cas ce qu'ont voulu les rédacteurs de la Convention. Alors, ces trois organes étant ainsi présentés, il faut voir maintenant quel est le déroulement de la procédure et quel est le rôle de chacun des trois dans le fonctionnement du système de contrôle. Prenons les choses, si vous le voulez bien, de façon chronologique. D'abord, la requête. La requête est présentée à la Commission européenne des droits de l'homme. Comme je l'ai dit, c'est cette commission qui est chargée de recevoir l'ensemble des requêtes. Elle peut émaner soit d'un État, soit d'un individu. Tout État parti à la Convention peut présenter une requête devant la Commission dirigée contre un autre État et tendant à dénoncer la violation par l'État défendeur des obligations qu'il a contractées en ratifiant la Convention. C'est ce qu'on appelle les requêtes étatiques ou les requêtes interétatiques, pour dire qu'elles émanent d'un État et qu'elles sont dirigées contre un autre État. C'est un contentieux qui oppose deux États et qui, à cet égard, se présente comme un contentieux international classique, avec certaines particularités. Mais on est dans le cadre d'un contentieux entre États. Dans la pratique du fonctionnement des organes de Strasbourg, il faut dire que ces requêtes étatiques ou interétatiques sont extrêmement rares. Depuis maintenant plus de 30 ans, même on pourra bientôt dire 40 ans, que fonctionne le système de contrôle, les requêtes étatiques n'ont pas dépassé une petite dizaine. En réalité, il y a eu une demi-douzaine de véritables affaires qui ont été soumises à la Commission par des États contre d'autres États. Donc c'est absolument marginal dans l'activité des organes de contrôle. C'est marginal pour une raison qui est facile à comprendre. Dans la mesure où le système permet à des individus, lorsqu'ils sont victimes d'une violation de leurs droits, de saisir eux-mêmes la Commission, il est assez explicable que les États ne veuillent pas se substituer aux victimes pour introduire le recours et laissent plutôt aux victimes le soin de se plaindre elles-mêmes s'il y a lieu. Ce qui fait que, en pratique, les contentieux interétatiques ont presque toujours concerné des situations de conflit politique entre deux États, et la saisine des organes de Strasbourg est apparue davantage comme un moyen de pression diplomatique que comme un véritable recours contentieux, tendant à faire trancher une question de droit ou de fait. Autant que je sache, à l'heure actuelle, aucun recours étatique n'est pendant devant les organes de Strasbourg, et cela fait bien longtemps, plusieurs années, qu'aucun n'a été introduit. À titre d'exemple, il y a eu dans le passé des requêtes de l'Irlande contre le Royaume-Uni à propos de la situation en Irlande du Nord, de Chypre contre la Turquie, de certains États d'Europe occidentale et du Nord contre la Turquie à l'époque où la situation des libertés publiques dans ce dernier pays s'était considérablement dégradée. Donc, d'une façon générale, les requêtes étatiques sont liées à des situations de conflits politiques ou de violations systématiques et caractérisées des droits de l'homme dans un État. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel de l'activité des organes de Strasbourg consiste dans l'examen des requêtes individuelles. Ce sont les individus qui saisissent la Commission, sous réserve, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'État mis en cause ait accepté et déclaré accepter les requêtes individuelles par la déclaration de l'article 25. Qui sont les individus recevables à saisir la Commission européenne des droits de l'homme? Eh bien, tous les individus qui sont placés sous l'autorité, sous la juridiction d'un des États partis à la Convention et qui se plaignent que tel ou tel droit fondamental qui leur est garanti par la Convention n'a pas été respecté à leur égard. Il n'y a aucun critère de nationalité. Peu importe la nationalité du requérant, la recevabilité de la requête n'est pas subordonnée à une condition de nationalité. Il peut s'agir d'une personne ressortissante d'un État non parti à la Convention, mais qui vit sur le territoire d'un État parti. Il est recevable à se plaindre. Donc peu importe la nationalité, peu importe d'autre part qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale. Les personnes morales, des sociétés, des associations, etc., sont également recevables à faire valoir leurs droits devant les organes de Strasbourg. Personne physique, personne morale, personne de la nationalité d'un des États d'Europe ou de la nationalité d'un État tiers. Comme le dit la Convention, la requête peut être formée par un particulier ou un groupe de particuliers ou une organisation non gouvernementale. Et il faut entendre par là personne physique ou personne morale au sens large. Cette requête étant présentée devant la Commission va devoir l'examiner et se prononcer sur sa recevabilité. Je précise d'abord que la Convention ne pose pas de règles formelles particulières pour la présentation des requêtes. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, la requête peut être présentée sans avocat. Elle est présentée généralement par écrit, envoyée au siège du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Ce que la Commission demande simplement au requérant, c'est d'exposer les faits aussi clairement que possible et d'indiquer aussi clairement que possible quel est l'article ou quels sont les articles de la Convention dont il dénonce la violation. Et d'indiquer également quels sont les recours internes qu'il a exercés avant de saisir la Commission, et cela pour permettre à la Commission d'apprécier si la condition d'épuisement des voies de recours internes est satisfaite. La Commission, donc, va prendre la requête et va examiner sa recevabilité. La Convention précise à quelles conditions une requête peut être déclarée recevable et, à l'inverse, dans quel cas la Commission peut la rejeter comme irrecevable. Sans vouloir être exhaustif et entrer dans trop de détails, je signalerai simplement les trois principales conditions de recevabilité d'une requête. Premièrement, comme je l'ai dit, la requête n'est recevable que si elle a été précédée de l'épuisement des voies de recours internes. C'est-à-dire que le requérant a effectivement mis en œuvre toutes les procédures qu'il avait à sa disposition au plan national pour obtenir de la part des juges nationaux la constatation et la réparation de la violation dont il prétend être victime, dont il prétend, à tort ou à raison, être victime. Mais en tout cas, il n'est recevable à se plaindre à Strasbourg que s'il a d'abord fait tout ce qu'il pouvait faire pour obtenir satisfaction au plan national et, naturellement, s'il l'a fait sans succès. Parce que s'il a obtenu des juridictions nationales satisfaction, il n'a plus non plus de raison d'aller se plaindre aux organes de Strasbourg. Cela suppose, par conséquent, que non seulement un recours ait été introduit au plan interne, mais que tous les degrés de procédure aient été sollicités. Autrement dit, que le requérant éventuellement ait fait appel et se soit pourvu devant la juridiction suprême et formé un recours en cassation contre les décisions juridictionnelles nationales rejetant ses prétentions. Ce qui veut dire qu'en principe, en théorie, la saisine de la Commission de Strasbourg doit avoir été précédée d'une décision rendue par la juridiction nationale la plus élevée, si le requérant a vraiment utilisé toutes les voies de recours à sa disposition. Il doit être remonté, être monté jusqu'à la juridiction nationale la plus élevée. C'est à cette condition seulement qu'il peut ensuite se plaindre devant les organes de Strasbourg. Ça, c'est la définition générale, ou la philosophie générale, de la condition d'épuisement des voies de recours internes. Elle est assez simple à formuler en théorie, elle est plus difficile à apprécier en pratique. Et la commission de Strasbourg passe beaucoup de temps à rechercher dans telle, si dans telle affaire particulière, à propos de telle requête, le requérant a bien épuisé toutes les voies de recours internes. Pourquoi est-ce que c'est assez compliqué à apprécier dans la pratique? Parce que les voies de recours qui sont obligatoires, les voies de recours internes qui sont obligatoires, sont évidemment seulement celles qui sont adéquates, c'est-à-dire adaptées au grief que le requérant invoque. On ne l'oblige à exercer au plan national que les voies de recours qui lui permettent effectivement d'obtenir satisfaction sur sa prétention. Non pas n'importe quelle voie de recours, mais celle qui est adaptée à sa demande. Il faut donc d'abord se demander si une telle voie de recours existe. Elle peut ne pas exister au plan interne. Auquel cas, le requérant pourra directement se plaindre devant la commission de Strasbourg. Elle peut exister au plan interne, mais exister sur le papier, être purement illusoire, purement théorique. Dans ce cas, la commission estimera que la requête à Strasbourg est recevable, même si le recours interne n'a pas été exercé, s'il apparaît à la commission que ce recours interne est purement théorique. Un exemple concret d'une hypothèse dans laquelle la commission estime qu'un requérant